Le titre de mon message ce matin, c'est « Les bienfaits de l'intercession ». Nous avons commencé vraiment dans cet esprit où nous avons prié pour notre pasteur qui est en Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour cette sœur Cynthia, vraiment que Dieu la restaure. Et j'aimerais ce matin vous parler de l'intercession parce que c'est vrai qu'en tant qu'Église, nous sommes amenés à prier. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions également pour les autres. Et c'est la définition de l'intercession. L'intercession, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre. C'est prier les uns pour les autres. Jacques, dans son épître, lorsqu'il s'adresse à des chrétiens, à ce moment-là, les chrétiens sont dispersés dans l'Empire romain et Jacques va s'adresser à ces chrétiens pour les réconforter, pour les encourager. Dans toute l'épître, Jacques va parler de la foi. Il va leur parler de l'importance de tenir dans la foi. Mais dans la conclusion de son épître, Jacques va conclure son épître en disant « Priez les uns pour les autres ». Dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, Jacques va dire aux chrétiens dispersés dans l'Empire romain « Priez les uns pour les autres ». Et vous savez, c'est ça l'essence même de l'intercession, c'est prier, porter les fardeaux de l'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Des fois, on ressent une cause, une situation vraiment pour laquelle notre cœur brûle. Il brûle à l'intérieur de nous-mêmes et nous souhaiterions vraiment que Dieu agisse. Ça nous est arrivé récemment. Ma femme, ça va faire d'ici quelques jours, nous fêterons notre 14e anniversaire de mariage. Et comme beaucoup de couples, dès la première année et après lorsque nous avons eu des enfants, nous faisons un culte familial où nous prions ardemment pour que Dieu protège notre foyer, pour que Dieu ne cesse vraiment de préserver l'unité, l'amour au milieu de nous. Il y a quelques mois, nous avons appris malheureusement que 4 jeunes couples que nous connaissons, avec qui nous avons grandi, étaient sur le point de divorcer. Et vraiment, cette situation nous a mis, notre cœur a commencé à brûler pour cette situation. Et depuis, nous sommes mis à vraiment intercéder pour ces familles afin que Dieu restaure, pour que Dieu restaure le premier amour que ces jeunes avaient les uns pour les autres et que Dieu intervienne puissamment dans ces situations. Ce qui m'a beaucoup frappé en arrivant dans cette assemblée il y a 2 ans, c'est que l'Église évangélique de réveil de Genève a vraiment compris le sens de l'intercession. Parce que nous mettons vraiment en pratique l'intercession au milieu de nous. J'ai noté qu'il y a au moins 5 réunions dans la semaine, 5 réunions où nous pouvons réellement rentrer concrètement dans l'intercession. J'ai noté qu'il y avait la réunion de prière du lundi à 12h15, première réunion. Deuxième réunion le mardi à 15h, où certains se réunissent ici dans ce lieu pour prier. Une réunion spécifique pour les familles, le mercredi à 12h15. Le jeudi soir, alors là, on a le choix. On peut commencer à 19h15 pour intercéder pour Israël. Ensuite, à 20h, par alternance, on se réunit dans ce lieu pour prier tous ensemble ou bien se retrouver dans les groupes de maison. Et puis, sans oublier, bien sûr, les 2 temps forts qui rythment vraiment la vie de prière de l'Église, que sont la semaine de jeûne et de prière que nous faisons 2 fois par an dans cette assemblée. Donc il y a autant d'occasions. Je pense qu'aucun des leaders de l'Église ne demande à chaque membre d'être là, toutes ces réunions. Mais on a au moins, en semaine déjà, au moins une occasion de venir et puis d'intercéder, soit dans un groupe de maison, soit ici même au sein de l'assemblée. Et vous savez, ces réunions d'intercession, ces réunions de prière, sont autant d'occasions pour prier pour quelqu'un d'autre. C'est autant d'occasions pour prier pour une cause, une situation pour laquelle votre cœur brûle. Ça peut être les malades au milieu de nous. Ça peut être aussi la précarité économique qui touche de plus en plus de personnes, même dans une économie qui jusqu'à présent était prospère en Suisse. Ça peut être, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour les chrétiens persécutés qui sont au Liban, qui sont enfermés, qui sont emprisonnés par Daesh. Ça peut être pour les familles dans l'Église, pour les jeunes, que Dieu les préserve. Et ça peut être aussi pour Israël, comme nous le faisons le jeudi soir. Et vous savez, quelqu'un disait un jour, l'intercession, c'est l'appel d'urgence à Dieu pour que Dieu vienne au secours de quelqu'un d'autre. C'est l'appel d'urgence que nous faisons. Je trouve que cette comparaison est assez intéressante. Lorsque j'ai lu cette phrase, je me suis alors représenté, moi-même, Jean-Mathias, alors je sors de cette église par exemple, et puis je rencontre un cycliste blessé au bord de la route. Ce cycliste, il a besoin de secours. Il y a 2 manières pour ce cycliste d'avoir une intervention des secours? La première manière, c'est tout simplement, finalement, que peut-être qu'il a son attelle, peut-être qu'il est encore, conscient, et dans ce cas, il va lui-même prendre son attelle, il va prendre son téléphone mobile, il va appeler les secours. Mais quand bien même il ferait cela, mon devoir en tant que citoyen, c'est d'aller à ses côtés et d'attendre l'arrivée des secours, n'est-ce pas? Cette première situation nous fait penser vraiment à tous ces chrétiens qui sont au milieu de nous, qui prient pour leur propre cause. Mais Dieu m'appelle aussi à aider ces chrétiens qui prient, à intercéder pour eux. La deuxième situation de ce cycliste, c'est que finalement, je le vois au bord de la route, et là, il n'a pas son attelle. Ou bien il est totalement agonisant. Il ne peut pas appeler. Il ne peut pas du tout appeler les secours. Et dans ce cas-là, c'est moi-même qui prendrai mon attelle pour appeler les secours. Et ça, cette deuxième situation me fait penser vraiment à toutes ces personnes qui sont autour de nous, qui ne sont nullement chrétiennes, qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu, qui peut-être font une prière rapide, une prière qu'ils ont apprise dès leur plus tendre enfance, mais qui n'intercèdent pas, qui ne prient pas vraiment. Et Dieu m'appelle vraiment à prier également pour ces personnes-là. Donc l'intercession, c'est l'appel d'urgence de Dieu, l'appel d'urgence que je fais à Dieu pour qu'il intervienne dans les situations de quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à être des intercesseurs. Dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel va recevoir cette révélation de Dieu. Le contexte, c'est quoi? Dans Ézéchiel 22, le contexte, c'est Israël commet des péchés. Non seulement le peuple commet des péchés, mais les chefs qui, eux, ont reçu l'autorité sont également dans le péché. Et Ézéchiel va recevoir cette révélation de Dieu où Dieu va lui dire « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Dieu cherche ce matin des intercesseurs. Dieu cherche ce matin que tu sois un intercesseur, que tu élèves un mur, que tu te tiennes à la brèche pour ton voisin, pour que tu te tiennes à la brèche pour ton frère, pour ta sœur, peut-être pour ton mari, peut-être pour ta femme, peut-être pour ton enfant, peut-être pour la jeunesse de l'Église, peut-être pour les différentes activités de l'Église. Dieu cherche des intercesseurs. Bien souvent, nous avons tendance à penser que l'intercesseur, les intercesseurs, c'est un groupe à part. C'est les conseillers qui s'avancent à la fin du culte pour prier pour nous. Oui, ils les intercèdent. Mais chaque chrétien est appelé à être un intercesseur. Il y a beaucoup de bénéfices à l'intercession. Il y a beaucoup de bienfaits à l'intercession. Mais ce matin, j'aimerais en voir trois avec vous. Trois bénéfices, trois bienfaits, les trois bienfaits de l'intercession. Le premier bienfait de l'intercession, c'est que l'intercession enrichit notre vie de prière. L'intercession enrichit notre vie de prière. Pourquoi? Parce que cela nous donne une occasion de plus, une occasion supplémentaire d'être dans le dialogue avec Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez, pendant longtemps, j'ai été très impressionné quand j'étais adolescent et même étudiant. J'ai été très impressionné par des personnes qui passaient vraiment des heures dans la prière. Je me disais, mais Seigneur, je n'arriverai jamais à passer autant d'heures dans la prière. Et j'étais encore plus intimidé par ce reproche qu'a fait Jésus à ses disciples, où Jésus, encore une fois, je vous explique le contexte, Jésus, il est dans l'agonie. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va quitter cette terre, donc accomplir la mission pour laquelle, finalement, il est venu. Et puis, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 26, Jésus va se retirer pour prier. Il va prendre avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et lorsque Jésus revient, il trouve ses disciples en train de dormir. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va dire, il va vers les disciples qu'il trouve endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Alors lorsque je lisais ce texte en étant étudiant, je disais, mais Seigneur, comment je peux passer une heure dans la prière? Parce qu'à l'époque, au bout de 20 minutes, 25 minutes on va dire, 30, je n'avais plus rien à dire. Mais Dieu m'a révélé quelque chose, mes chers amis. Dieu m'a fait comprendre que plus je limitais mes prières à ma petite personne, plus ma vie de prière était limitée. Plus je limitais mes prières à ma petite personne, plus ma vie de prière devenait limitée. Je me suis penché sur l'exemple de l'intercesseur par excellence, qui est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Durant son ministère sur terre, Jésus n'avait de cesse de prier. Il n'avait de cesse d'intercéder. Il nous est dit à différentes occasions dans les évangiles, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il y passait parfois toute la nuit. On retrouve encore dans d'autres passages des évangiles où il nous est dit Jésus se retirait fréquemment dans le désert pour prier. Jésus a également jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alors je me suis dit, mais Jésus, fils de Dieu, qui a vécu dans la gloire céleste, ce à quoi nous sommes appelés, il n'avait pas besoin de prier pour lui-même. Il n'avait nullement besoin de prier pour lui-même. S'il passait autant de temps dans la prière, c'est parce qu'il avait pris conscience de tous les besoins qui étaient autour de lui. Il avait pris conscience que les hommes avaient besoin du salut et qu'il fallait intercéder pour cela. Il avait pris conscience que les gens autour de lui étaient malades, qu'il fallait guérir les boiteux, les paralytiques. Il avait pris conscience qu'il fallait qu'il intercède pour que des hommes et des femmes soient délivrés des puissances démoniaques. Et c'est pour cela que dans Romains 8, verset 34, Jésus, même après avoir quitté la terre, il nous est dit dans Romains 8, verset 34, qu'il est auprès du Père et il intercède, il continue à intercéder pour nous. Jésus, l'intercesseur par excellence. Alors à partir de cet exemple, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai vraiment compris pourquoi ma vie de prière était si limitée. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque, je passais le plus clair de mon temps à prier pour moi-même. Et lorsque j'ai réalisé qu'en tant que chrétien, Dieu m'appelle à prier pour les autres, alors les sujets de prière venaient tellement nombreux que finalement, je n'avais plus de temps pour prier. Finalement, lorsque je réalise que je dois prier pour mon collègue de travail, lorsque je réalise que je dois prier pour mon voisin qui ne connaît pas Dieu, lorsque je réalise que je dois prier pour les malades au milieu de l'église, lorsque je réalise que je dois prier pour les chrétiens persécutés, lorsque je réalise que je dois prier pour la jeunesse en général, la jeunesse de l'église en particulier, lorsque je réalise que je dois prier pour la croissance de l'église, alors vous allez voir que le temps ne vous est pas donné parce qu'il y a tellement de sujets pour lesquels nous pouvons intercéder. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie de prière a commencé à se développer. Et au bout de quelques temps, je ne passais plus 20, 30 minutes, mais une heure de prière était beaucoup plus facile à passer alors qu'auparavant, au bout de 20 minutes, je n'avais plus rien à dire. Donc lorsque j'intercède, l'intercession enrichit ma vie de prière parce que l'intercession me donne une occasion supplémentaire d'être dans le dialogue avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu pour mes frères et pour mes sœurs. Mais lorsque nous intercédons, ce à quoi nous nous attendons, c'est que l'action de Dieu, vraiment, que nous voyons l'action de Dieu dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Et ça m'amène à mon deuxième point, le deuxième bienfait, c'est qu'au travers de l'intercession, nous contribuons à déclencher l'action de Dieu dans la vie des autres. Au travers de l'intercession, nous contribuons à déclencher l'action de Dieu dans la vie des autres. L'exemple que j'aimerais prendre, c'est l'exemple de Pierre. Pierre prêchait l'évangile. Il s'est fait arrêter parce qu'à l'époque, la Bible nous dit que cela plaisait aux Juifs que Pierre soit arrêté. Pierre se fait arrêter et finalement, il se retrouve dans une prison où il est encadré par 4 escouades de 4 soldats. Et ce n'est pas fini. Pour être sûr que ce bonhomme ne va pas s'échapper, on va demander qu'il soit lié par 2 chaînes. Donc Pierre est totalement enchaîné. Il est lié. Il ne peut pas sortir de prison. Lui-même priait pour sa cause. Mais dans Actes, chapitre 12, versets 5 à 7, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quand on lit ce passage, on voit qu'il y a un contraste vraiment saisissant. Il y a d'un côté, comme je l'ai expliqué, Pierre qui est enchaîné, qui est lié, et puis de l'autre, la prière de l'Église, l'intercession de l'Église, qui, elle, n'est pas liée du tout. Parce que l'intercession traverse les murs. L'intercession traverse tous les obstacles. Je ne sais pas ce matin quelles sont les chaînes qui sont dans la vie de ton mari. Je ne sais pas ce matin quels sont les liens, quels sont les obstacles qui sont dans la vie de ton collègue de travail, qui sont dans la vie de celui qui est assis à côté de toi ce matin. Mais sache que par ton intercession, tu peux briser ces chaînes. Par ton intercession, tu peux briser les chaînes. Peu importe les obstacles et peu importe les chaînes, avec foi, nous croyons que notre Seigneur Jésus répond à notre intercession. Il y a le film War Room qui est sorti il y a quelques mois, que nous avons eu d'ailleurs l'occasion de partager, de regarder ensemble. Je crois qu'il y avait une soirée spéciale où nous avons visionné ce film. Ce film est une très belle illustration de ce qu'est l'intercession. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vivement de le voir. Parce que moi, quand je l'ai regardé deux fois. Et il y a deux enseignements vraiment très intéressants que je tire de ce film. Le premier enseignement, ce film nous montre comment concrètement se tenir à la brèche. Vous vous rappelez du passage qu'on a lu tout à l'heure dans Ézéchiel, où le Seigneur demande que quelqu'un élève un mur. Il cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Et on voit dans ce film comment une mère, d'abord une veuve, mais après cette mère de famille, comment elle va se tenir à la brèche pour prier pour sa famille, prier pour sa fille, prier pour son mari. Vous savez, la brèche, dans l'Antiquité, la brèche était un peu une tactique militaire, puisqu'en fait, les soldats, les assaillants, pour entrer dans une forteresse, ils pratiquaient une ouverture qu'on appelle la brèche, et c'est par cette ouverture qu'ils pénétraient dans la forteresse, qu'ils prenaient le contrôle en fait, du territoire. Et les brèches dont il est question dans ce film sont des situations qui nous parlent. Ce sont des situations de tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, Satan peut créer des brèches dans l'éducation de tes enfants, n'est-ce pas ? Satan peut créer des brèches dans la vie de ton couple. Par rapport au témoignage que je partageais avec vous tout à l'heure, où ces quatre jeunes couples sont sur le point de divorcer, Satan a créé une brèche, l'ennemi a créé une brèche. Satan peut créer des brèches également dans ton travail. Il peut créer des brèches dans ton équilibre émotionnel. Et Dieu nous appelle à nous tenir sur la brèche, comme l'a fait cette femme. Et lorsque l'ennemi veut créer des ouvertures pour entrer dans notre forteresse, pour prendre le contrôle dans nos vies, Dieu appelle mon frère et ma sœur à prier pour moi. Dieu appelle mon frère et ma sœur à intercéder pour moi. Donc ce film nous montre comment intercéder concrètement, comment se tenir à la brèche. Lorsque j'ai regardé ce film, j'en ai tiré un deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que ce film illustre parfaitement combien nous avons besoin d'un cercle de prière. L'importance d'avoir un groupe dans lequel nous intercédons les uns pour les autres. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à rejoindre un groupe de maison si vous n'en avez pas. Il y a plusieurs groupes de maison, il y a à l'extérieur, dans le hall de l'église, vraiment des petites cartes, où vous pouvez voir en fonction de là où vous habitez, s'il y a des groupes de maison qui sont en place. Parce que cette femme, cette mère de famille, avant d'entrer dans l'intercession, il a fallu qu'il y ait cette veuve, cette fameuse Madame Clara, donc le personnage de Madame Clara, qui a intercédé premièrement pour elle. Et ensuite, elle a intercédé pour son mari. Je vous encourage vraiment à rejoindre un groupe de prière, parce que vous y trouverez des frères et sœurs avec qui vous pourrez partager mutuellement vos fardeaux, vos difficultés. Et ensemble, vous pourrez briser les liens, briser les chaînes qui nous retiennent encore aujourd'hui. Notre prière d'intercession peut faire bouger la main de Dieu en faveur des autres. Notre prière d'intercession peut faire bouger la main de Dieu envers les autres. Alors me direz-vous, mais moi-même j'ai des problèmes. Pourquoi je vais intercéder pour les autres ? J'ai mes propres problèmes. J'ai mes enfants qui sont peut-être dans la drogue. Moi, je vais prier d'abord pour ma propre famille. Je veux prier pour que je retrouve un travail. Je n'ai pas de travail. Pourquoi je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas de travail alors que moi-même, je n'en ai pas ? Pourquoi je vais prier finalement pour qu'une personne ait un logement alors que moi-même, je n'en ai pas ? Tous les matins, je prends le bus, je prends le train, j'aimerais bien avoir une voiture. Comme ça me permettra d'aller me balader cet après-midi d'ailleurs, en montagne. Mais je ne vais pas commencer à prier pour les autres alors que moi-même, j'ai ses propres besoins. J'avais moi-même ce genre de raisonnement. Mais mes frères et sœurs, lorsque nous intercédons pour les autres, lorsque nous intercédons, notre intercession ouvre le coffre de bénédiction de Dieu pour nous-mêmes. C'est mon troisième point. L'intercession ouvre le coffre-fort des bénédictions de Dieu, également pour celui qui intercède. Nous l'avons déjà dit, intercéder, c'est prier les uns pour les autres. Donc, durant le temps d'intercession, qu'est-ce que je fais ? Je mets de côté mes propres besoins. Je mets de côté ma maladie, je mets de côté ma précarité économique et je me mets à prier pour mon frère qui n'a pas de travail, pour ma sœur qui est malade, alors que moi-même je suis malade. Mais cela demande un sacrifice, parce que humainement c'est assez compliqué. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous un principe biblique extraordinaire. Un principe biblique extraordinaire qui, certes, est en totale contradiction avec la mentalité de ce monde. Parce que qu'est-ce qu'on nous apprend aujourd'hui dans le monde, c'est « pense d'abord à toi, et puis les autres, on verra. Quand tu seras bien, quand tu n'auras aucun problème, après, tu t'occuperas des autres. » Le principe biblique que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est le suivant. Lorsque nous nous préoccupons des besoins des autres, Dieu prend lui-même soin de nos propres besoins. Lorsque nous nous préoccupons des besoins des autres, Dieu prend lui-même soin de nos propres besoins. Je vais l'illustrer par trois textes bibliques. Le premier, dans Deutéronome, chapitre 25. Encore une fois, je vous explique le contexte de Deutéronome. Vous savez, le livre de Deutéronome, c'est un livre où on retrouve vraiment pas mal d'ordonnances que Dieu donne à son peuple. Et puis, parmi toutes les ordonnances que Dieu va donner à son peuple, chose incroyable, on trouve dans Deutéronome 25, verset 4, Dieu va dire au travers de Moïse, « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. » C'est surprenant. Pourquoi Dieu se préoccupe d'un bœuf? Le message que Dieu veut nous faire passer, voulait faire d'abord passer au peuple d'Israël, c'est que lorsque le bœuf était utilisé à l'époque et encore aujourd'hui pour fouler le grain était utile pour que le peuple ait la nourriture. Museler, c'est, vous le savez, c'est mettre quelque chose autour en fait, de la gueule de l'animal afin que l'animal ne puisse pas manger. Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, si le bœuf participe vraiment à ce que tu as de la nourriture chez toi, tu ne peux pas l'empêcher de lui-même de manger vraiment au champ dans lequel il travaille. Alors imaginez-vous, si Dieu se préoccupe d'un bœuf, d'un animal qui foule le grain, lorsque nous nous préoccupons des affaires de Dieu, lorsque nous prions pour des hommes, pour que des hommes et des femmes, pour le salut des hommes et des femmes, lorsque nous travaillons pour le royaume de Dieu, à plus forte raison, Dieu également nous aidera vraiment à participer à la gloire et à la bénédiction qu'il a prévue pour nous. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Ensuite, j'aimerais prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, le père de la foi. J'aimerais juste revenir sur la vie d'Abraham pour bien illustrer ce que je veux dire, pour que vous compreniez bien. Dans Genèse, à partir du verset 15-16, on apprend, donc, que vous le savez, que sa femme, la femme d'Abraham, est stérile. Donc, elle va essayer toutes sortes de manœuvres qui vont, dans un premier temps, bien se passer, puisqu'en fait, il y aura un fils qui va naître de la servante. Et puis, à un moment donné, donc, Dieu va promettre la naissance d'Isaac à Abraham. Et là, Abraham a un temps de doute, hein, parce qu'il va répondre à Dieu, mais comment une femme d'un âge si avancé peut enfanter? Et puis, il va se passer beaucoup de temps. Il va se passer du temps. Et puis, à un moment donné, Abraham va... La Bible nous dit que Abraham va se retrouver dans le pays de Guérar. Lorsqu'il se retrouve dans le pays de Guérar, Abraham va commettre pour une deuxième fois, va mentir pour une deuxième fois, parce qu'il l'avait déjà fait. Rappelez-vous, lorsqu'Abraham était en Égypte, Abraham va dire au Pharaon, finalement, que Sarah, c'est sa sœur. Pour une deuxième fois, il arrive au pays de Guérar, et puis il commence à raconter à tout le monde, mais c'est ma sœur. Et le roi de Guérar, c'était Abimélec. Abimélec va faire enlever Sarah, alors même qu'il ne l'a pas touchée, Dieu va envoyer la punition sur Abimélec et sa famille. Dieu va envoyer la stérilité sur la femme d'Abimélec et sur sa servante. Alors, le mensonge d'Abraham va être mis au grand jour. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, parce que effectivement, Dieu avait donné une promesse à Abraham. Mais entre la promesse et cet épisode-là, il y a à peu près 20 ans. 20 ans où rien ne s'est passé. 20 ans ou peut-être qu'Abraham avait prié, disant « Mais Dieu, tu te rappelles de ta promesse, tu m'avais dit que j'aurais un enfant. Je suis encore plus âgé, ma femme est encore plus âgée. » Mais rien ne se passait. Donc je reviens à mon histoire sur Abimélec. Et Abimélec, donc voyant la malédiction de Dieu, il va se tourner vers Dieu. Dieu va lui dire « Mais en fait, je t'ai maudit parce que tu as pris la femme d'Abraham. » Ce n'est pas sa sœur, c'est sa femme. Dieu va demander à Abimélec d'aller trouver Abraham pour que Abraham prie pour lui. Et il ne va pas prier pour n'importe quoi. Regardez dans Genèse chapitre 20, versets 17 et 18. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. 20 ans qu'Abraham et Sarah attendent la naissance d'un enfant. Et Dieu lui demande d'aller prier pour que les servantes, la femme et les servantes d'Abimélec retrouvent la stérilité. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est-à-dire que vous avez une maladie très grave, vous priez, rien ne se passe, mais Dieu vous demande d'aller prier pour un frère, pour une sœur qui a la même maladie que vous, et là, il guérit. Extraordinaire. Et ça, c'est le dernier verset du chapitre 20, verset 18, où Dieu demande à Abraham de prier pour Abimélec. Il prie pour Abimélec, il obéit à Dieu, il sait qu'il n'a pas d'enfant, ça fait 20 ans qu'il attend, et Sarah. Mais il va prier. Et Dieu, l'intercession, Dieu répond à l'intercession d'Abraham. Mais regardez ce qu'il est dit, chapitre 21, verset 1, donc le verset juste après. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il a fallu qu'Abraham prie d'abord pour Abimélec, pour que la femme et les servantes d'Abimélec retrouvent la fertilité avant que Dieu intervienne dans la vie même d'Abraham et de Sarah. Dieu nous appelle d'abord à nous occuper des besoins des autres et il prendra soin de nos propres besoins. Amen. Un deuxième exemple qui est aussi intéressant, c'est celui de Job. Job, donc les trois premiers chapitres du livre de Job, on découvre en fait qui est le personnage de Job. On voit que Job, il va tout perdre. Il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants. Ensuite, il va être gagné par la maladie. Ensuite, il y a sa femme qui va se révolter. Et on arrive au chapitre 4 du livre de Job. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, entre le chapitre 4 du livre de Job et le chapitre 31, il y a une discussion, il y a un va-et-vient qui est fait entre Job et trois autres personnages. Trois autres personnages. Et pour le coup, je vais vous demander de les lire avec moi. On va commencer dans Job, chapitre 4. Il y a trois personnages avec lesquels Job va avoir cet entretien. Trois personnages qui vont avoir en fait une attitude pour accuser Job. Une attitude moraliste. Le premier personnage, il s'appelle Eliphaz de Théman. Au chapitre 4 du livre de Job, chapitre 4, verset 1er, Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le silence ?» Il continue en disant pour se moquer de Job « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Donc toi, Job, tu as prié pour que des hommes se relèvent. Et puis toi, quand il s'agit de toi, tu faiblis. » Premier entretien. Je vous passe donc toutes les réponses que fera Job à ce premier personnage. Mais j'aimerais rapidement passer au deuxième personnage, parce que c'est sur le même ton finalement. C'est sur un ton accusateur et très moraliste. Dans Job chapitre 8, on trouve le deuxième personnage qui s'appelle Bildad de Shuach. Job chapitre 8, premier verset. Bildad de Shuach prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Ne vois-tu pas que Dieu ne te répond pas ? Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ?» Deuxième personnage, Bildad de Shuach. Troisième personnage, qui s'appelle Sophar de Nama. Job chapitre 11, verset 1er. Sophar de Nama prit la parole et dit « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse ? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison ? Tes vains propos feront-ils taire les gens ? Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde ?» Voilà trois personnages qui vraiment se moquent de Job, littéralement, dans un ton très, très lyrique. Mais ils se moquent de Job. Mais attends, Job, tu as prié, tu priais pour les autres se sont relevés, puis toi, voilà, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu es gagné par la maladie, tu as perdu tes biens. Mais si vous lisez tout le livre de Job, vous allez voir qu'à un moment donné, Job n'a perdu confiance. Il continuait dans la prière. Et l'épilogue se trouve dans Job 42, à partir du verset 7. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, donc Bildad et Sophar, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé avec moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad et Sophar, donc nos trois personnages qui se moquaient de Job, ils allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Et au verset 10, qu'est-ce qu'il nous est dit? Vous savez, il y a au moins une quarantaine de chapitres où Job il a tout perdu. Job il a perdu sa femme, il a perdu ses biens, il a été gagné par la maladie. Et au verset 10, juste après avoir prié pour les trois personnes qui se moquaient de lui, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Lorsque je me préoccupe du besoin des autres, Dieu prend soin de mes propres besoins. C'est toute l'essence de l'intercession, mes amis. Dans l'intercession, je mets de côté mes propres besoins et je commence à intercéder, je commence à prier pour le rétablissement de ceux et celles qui sont autour de moi. Parce que notre Dieu est fidèle. Et tout comme Abraham, Job, après avoir prié pour les autres, Dieu ne t'oubliera pas. Si tu as à cœur de prier pour les jeunes, si tu as à cœur de prier pour la jeunesse, Dieu ne permettra pas que ton enfant, que ton fils, que ta fille termine sa vie dans la drogue. Si tu as à cœur pour prier pour les malades, si tu as ce désir brûlant, Dieu ne permettra pas que ta maladie soit sans fin. Si tu as à cœur de prier pour que Dieu gagne les cœurs de cette ville, pour que Dieu gagne les cœurs de ce pays, pour qu'un grand nombre soit sauvé, Dieu ne permettra pas que dans ta famille, qu'il y ait encore des personnes qui refusent le salut. Lorsque je m'occupe, me préoccupe, lorsque je prie pour le besoin des autres, Dieu prend soin de mes propres besoins. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu est fidèle. Amen.